On entend parfois cela, la chance sourit aux audacieux. Et ce qui a fini par faire que c'est devenu une expression ou un proverbe, c'est que on constate que les gens, que bien des gens en tout cas, qui ont réussi dans leur vie, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit au niveau de professionnel, que ce soit des inventeurs ou quoi que ce soit, ce sont souvent des gens qui, un jour ou l'autre, ont pris des grands risques. Et puis, eh bien, cette prise de risque a amené, au bout du compte, ces personnes à réussir quelque chose dans la vie. La chance sourit à ceux qui ont osé entreprendre quelque chose que les autres n'ont pas osé faire. Parce que souvent c'est ça, c'est pas forcément des gens plus doués que d'autres, mais en tout cas ce sont des personnes qui ont osé se lancer un jour dans leur vie. Eh bien ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu sourit aux audacieux. Et c'est le titre de ma prédication ce matin, Dieu sourit aux audacieux. C'est-à-dire que Dieu va accompagner et faire réussir les projets de ceux qui ont osé entreprendre de grandes choses pour lui. Alors, pas n'importe quelle chose, hein, bien sûr, mais des choses que lui-même a mis dans leur cœur. Et il me semble que le principal problème dans notre vie, ce n'est pas de manquer de désir de faire de grandes choses pour Dieu, mais c'est de manquer d'audace. Nous manquons de confiance en Dieu, nous avons peur que Dieu nous laisse tomber, peut-être, et puis, il faut aussi le reconnaître, nous avons souvent peur de sortir de notre zone de confort. Parce qu'entreprendre des choses nouvelles, prendre des risques, nous fait justement courir le risque de perdre au moins ce que nous avons. Si dans notre vie, nous voulons faire de grandes choses pour Dieu, eh bien, il faudra oser prendre le risque de lui faire confiance parce que Dieu sourit aux audacieux. Et nous allons voir cela dans la parole de Dieu en 1 Samuel 14, et le texte sera projeté. Nous allons d'abord situer un petit peu le contexte de ce passage. Alors, nous sommes environ autour de l'an, enfin, moins 1040. Et ça se passe dans la région actuelle d'Israël. Et là, il y a un peuple, les Philistins, qui pendant quelque temps s'était tenu relativement tranquille, mais qui maintenant se sentent suffisamment forts et ils viennent faire la guerre au peuple d'Israël, qui n'est pas n'importe quel peuple, je vous rappelle, qui est le peuple que Dieu a choisi pour lui appartenir. Et à cette époque-là, c'est Saül qui est le roi de ce peuple. Alors Saül est un homme courageux, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, c'est un homme qui a un grave problème. Dans les difficultés, eh bien, il renonce à faire confiance à Dieu. Il préfère se confier dans ce qui lui semble être le plus pertinent, plutôt que de faire ce que Dieu lui a demandé. Saül a un fils, Jonathan. Et Jonathan semble avoir hérité du courage de son père, mais contrairement à lui, il fait vraiment confiance à Dieu. Et Dieu va utiliser donc son courage plus sa confiance en lui pour intervenir de manière puissante en faveur de son peuple. Un poste avancé des Philistins vint s'établir au défilé de Michmash. Alors c'est à peu près dans cette région-là. Voilà le type de paysage dans lequel va se dérouler notre action. Et en fait, d'un côté, il y a les Philistins qui sont venus avec leurs troupes, leur armée, et de l'autre côté, il y a le peuple d'Israël. Et on peut comprendre que le peuple d'Israël ne va pas tout de suite au combat parce que les Philistins qui dominent la région, par exemple, contrôlent les maréchaux ferrants, contrôlent en fait ceux qui travaillent le métal. Le nom m'échappe. Les forgerons, voilà. Et ça leur permet tout simplement une chose, c'est ça leur permet de contrôler toutes les armes en circulation. Et s'ils ils font payer pour que les gens qui habitent la région puissent aiguiser leurs outils des champs, en aucun cas, ils ne peuvent le faire avec des épées. Et du coup, c'est un peu un combat déséquilibré, parce que d'un côté, il y a une troupe armée, avec des soldats aguerris, et de l'autre côté, un peuple presque sans armes. Et le texte nous dit, le texte qui précède un peu le passage que nous lisons, que en fait, dans cette troupe d'Israël, il y avait deux personnes qui avaient une arme. Les deux personnes les plus puissantes, on va dire, le roi Saül et son fils Jonathan. Et je commence donc maintenant le récit au verset 1. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouve là, de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Alors, pour l'instant, Jonathan était encore en sécurité. Il est du bon côté de la montagne, donc il est hors de danger. Mais c'est un homme de guerre, c'est un homme qui en veut. Et en fait, il a le désir de s'approcher de ses ennemis. Pourquoi ? On va voir dans la suite du récit. Parce que c'est Dieu qui le pousse à le faire. Mais voilà, il ne dit rien à son père, qui est en plus le roi, le chef de la troupe. Jonathan ne dit rien à son père, probablement parce que son père aurait désapprouvé une initiative aussi folle. Saül était un homme courageux, d'accord, mais il n'était pas en mesure de discerner la volonté de Dieu. Et Jonathan préfère ne rien lui dire, parce que maintenant ce n'est plus un enfant, c'est devenu un jeune homme responsable. Il est amené maintenant à faire lui-même des choix pour sa propre vie, et son choix, dans ce cas-là, c'est de ne rien dire à son père, mais c'est d'aller voir ses ennemis. Et parfois, c'est un peu la même chose pour nous, hein. Lorsque nous voulons faire des choses pour Dieu, parfois, il ne vaut mieux pas informer certaines personnes de ce que l'on a en tête. Parce qu'au lieu de nous encourager dans ce que nous voulons faire pour Dieu, eh bien ces personnes vont au contraire tout faire pour nous décourager. Vous savez, vous avez sûrement entendu ça. Mais non, mais ça ne sert à rien. Pourquoi tu veux faire ça? Mais n'y va pas. Laisse tomber ce projet-là. Pourquoi? Laisse Dieu faire. Une fois on entend ça. Laisse Dieu faire. Il va se débrouiller sans toi. Nous devrions refuser d'écouter tous ceux qui veulent nous décourager d'accomplir la volonté de Dieu, parce que ces paroles de découragement ne sont pas des paroles qui sont soufflées par Dieu, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le diable. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 6, dans le texte que Pascal nous a lu. Le diable qui est là, en fait, pour nous décourager, pour nous amener à renoncer à utiliser ce que Dieu met à notre disposition. Et souvent, ces personnes décourageantes sont des personnes qui, elles-mêmes, ont manqué de courage dans leur vie, ont manqué du courage de s'appuyer sur Dieu. Et puis, comme elles n'ont pas eu ce courage pour leur propre vie, eh bien, elles vont chercher à dissuader les autres de le faire. Parce qu'il faut le reconnaître, hein, c'est certain que suivre la volonté de Dieu présente parfois des risques. Des risques pour notre confort personnel, des risques aussi parfois pour notre propre sécurité. Mais au bout du compte, il nous appartient de nous poser cette question. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Est-ce que nous voulons simplement mener une vie confortable? Une vie tranquille? Ou bien est-ce que nous avons envie de mener une vie passionnante? C'est-à-dire une vie où nous voyons Dieu agir. Jonathan sait qu'il va au-devant de grands dangers, et pourtant, il ne fait pas demi-tour, mais il avance parce qu'il accepte l'idée que pour suivre Dieu, il doit se mettre en danger. Saül se tenait à la limite de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et la troupe qui était avec lui comptait environ 600 hommes. Le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. C'est-à-dire qu'en fait, alors, moi je l'ai un peu regardé sur une carte, hein. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir à peu près une distance de 4 kilomètres entre Jonathan et entre les troupes du roi. Et 4 kilomètres en zone de montagne, c'est une licence qui est énorme. Et ça veut dire que si Jonathan rencontre des difficultés trop grandes pour lui, eh bien, il ne pourra compter que sur Dieu, parce que personne ne pourra venir à son secours. Dans certains de nos engagements pour Dieu, nous pouvons des fois compter sur les autres, hein, parce que les autres sont associés à ce que nous faisons. Mais d'autres fois, il nous faudra peut-être aller de l'avant tout seul, en comptant sur Dieu seul, parce que c'est à nous seuls que Dieu aura confié ce projet. Dans le passage par lequel Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher de chaque côté. C'est-à-dire que c'était un peu un paysage comme celui-là. Et en fait, c'était très pertinent de la part des Philistins, parce qu'il y a un col. Il y a un col pour passer d'une région à l'autre. Et eux, ils se sont mis sur une des hauteurs. Et ça veut dire que ça leur permet de contrôler la totalité de tout ce qui va se passer en dessous. Et à une époque où il n'y avait ni artillerie, ni armes à feu, c'est vrai que c'était très pratique d'être en position supérieure, parce que ça permettait de jeter sur ses adversaires tout ce qu'on avait sous la main. Et dans une zone de montagne, il y a énormément de choses à jeter. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des incirconcis, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Jonathan doit être vraiment un homme digne de confiance, parce que celui qui porte ses armes est prêt à l'accompagner. Et Jonathan, il est en train de prendre de grands risques. Mais en même temps, il n'est ni fou ni suicidaire. Parce qu'il a dans son cœur le désir d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui va pouvoir changer la vie de ceux qu'il aime. Mais à ce stade de son projet, il n'est pas encore certain que Dieu lui demande vraiment d'aller attaquer ces hommes. Il dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous ? C'est non pas un manque de confiance en Dieu, mais seulement une juste conviction qui est que si jamais Dieu désapprouve son projet, eh bien il ne sera pas couronné de succès. Mais si par contre Dieu est bien derrière ce projet-là, ce projet fou qu'il a dans son cœur, eh bien Dieu va intervenir puissamment pour que ce projet soit couronné de succès, même si humainement il semble devoir échouer. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Lorsque l'on fait quelque chose pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas les moyens financiers, humains ou techniques dont nous disposons. Ce qui compte, c'est que Dieu soit avec nous. Parce que si Dieu est avec nous, qui pourra rivaliser contre nous ? Mais comment savoir si Dieu est derrière les désirs de notre cœur ? Alors voilà ce que va faire Jonathan. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces hommes et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous, nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains, c'est ce qui nous servira de signe. Jonathan demande un signe. Et contrairement à ce que peut laisser penser une lecture rapide de ce texte, ce n'est pas une chance sur deux qui est en train de dire Jonathan. Jonathan n'est pas en train de tirer à pile ou face avec Dieu. Il est en train de demander à Dieu que ses ennemis fassent quelque chose que normalement, ils n'auraient jamais dû faire sur le plan militaire. Rappelons-nous, ils tiennent une position haute, ça veut dire qu'ils contrôlent tout ce qui est en dessous. Et militairement, il est vraiment intéressant, il faut absolument réussir à prendre des positions qui sont en hauteur. Et donc, il n'aurait jamais dû permettre à qui que ce soit de les rejoindre. Et encore moins, de demander à des gens qui sont leurs ennemis de venir les rejoindre avec leurs armes. En fait, ce que Jonathan est en train de demander, c'est « Seigneur, si jamais c'est ta volonté que j'aille au combat, eh bien, ouvre-moi une porte afin que je puisse m'y engouffrer. offre-moi une opportunité de le faire. C'est un peu ce que nous, parfois, nous pouvons faire. Hein, moi, je vois certaines de mes prières. Hein, si jamais c'est ta volonté, Seigneur, que je parle de ce sujet, eh bien, fais en sorte que cette personne en parle en premier. Ou bien, Seigneur, si jamais on me propose ce travail que je n'ai pas demandé, eh bien, j'en déduirai que tu m'encourages à accepter ce poste. Ou bien, Seigneur, si jamais tu me fais rencontrer aujourd'hui cette personne par hasard, eh bien, je ne me défilerai pas et j'irai lui parler. C'est important, hein. Ce qui est important pour les projets qu'il y a dans notre cœur, c'est de savoir, est-ce que Dieu est derrière cela, oui ou non ? Alors, lorsque cela est clairement écrit dans la parole de Dieu, hein, on n'a pas besoin de signes. On n'a pas besoin de demander à Dieu si c'est bien sa volonté qu'on ne vole pas. On n'a pas besoin de demander à Dieu de nous confirmer si sa volonté c'est bien qu'on aime notre prochain ou bien qu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Mais il y a des choses des fois moins claires pour nous. Et face à certains choix importants de notre vie, nous pouvons avoir des doutes. Eh bien, dans ces moments-là, nous pouvons demander à Dieu de nous montrer par un moyen ou un autre, si jamais c'est bien sa volonté que nous fassions cela dans notre vie. Et si jamais Dieu nous dit d'y aller, eh bien, à nous de foncer. Jonathan et son écuyer vont de l'avant, attentifs à ce qui va se passer. Est-ce que Dieu va, oui ou non, leur ouvrir une porte ? Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voilà que les Hébreux sortent des trous où ils sont cachés. » Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à son porteur d'armes. « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Voilà, donc militairement, jamais ils n'auraient dû permettre à leur ennemi de les rejoindre. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Là, probablement que c'est un excès d'orgueil. Hein. Ils se sentent tellement en situation de supériorité qu'ils n'imaginent pas que un homme avec une épée et un autre homme qui est simplement là pour porter ses armes peuvent être dangereux pour eux. Et probablement qu'ils sont en train de tendre un piège, hein, ils ne leur disent pas « mais venez vous rendre, mais venez, on a quelque chose à vous dire ». Alors, Jonathan dit à son porteur d'armes « monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël ». Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Voilà. Dieu vient de leur ouvrir une porte, et conformément à l'engagement qu'ils ont pris avant, eh bien, ils vont au combat parce qu'ils savent que Dieu est favorable à ce projet. Et ça ne veut pas dire qu'ils y vont sans peur, mais ça veut dire que, malgré leur peur, parce qu'il faut être inconscient pour partir à l'assaut d'une troupe bien armée, mais pourtant, c'est ce qu'ils font. Ils surmontent leur peur parce que Dieu est avec eux. Et c'est d'autant plus courageux de leur part de faire cela qu'ils sont particulièrement vulnérables. Non seulement ils sont en infériorité numérique, mais le texte nous dit même que pour les rejoindre, ils doivent se servir à la fois de leurs pieds, ça on s'y attendait, mais aussi de leurs mains. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en situation de se protéger avec un bouclier ou d'avoir l'épée à la main. Ils ne peuvent même pas profiter pleinement. Ce sont tous les deux de jeunes hommes, ils ne peuvent même pas profiter pleinement des avantages que leur apporte leur jeunesse. Et pourtant, les Philistins tombaient devant Jonathan et son porteur d'armes, donnaient la mort derrière lui. Voilà, un blesse et l'autre achève. Alors bien sûr, ça nous paraît extrêmement cruel, hein. Maintenant ça nous choquerait, mais en tout cas c'était un combat à mort dans lequel étaient engagées ces troupes. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. Deux jeunes hommes montent au combat, une vingtaine de soldats tombent devant eux. C'est quelque chose qui est contre toute logique humaine, mais pourtant, Jonathan et son écuyer sont victorieux parce que Dieu sourit aux audacieux qui ont osé accomplir sa volonté. Et Dieu va ensuite utiliser leur audace personnelle pour transformer, inverser la situation qui est celle du peuple actuel, de manière à ce que l'ensemble de son peuple triomphe de ses ennemis et qu'enfin il recouvre la liberté. L'audacieuse victoire de Jonathan et de son écuyer a fait prendre conscience, déjà dans un premier temps, à leurs ennemis qu'ils n'étaient plus invulnérables et ils vont cesser de commettre le mal. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste de ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. Voilà, grâce à une simple initiative personnelle, eh bien, la peur a naturellement changé de camp. Et Dieu va amplifier cela en intervenant lui aussi de manière miraculeuse. La terre se mit de plus à trembler, cela devint une terreur divine. Sûr, hein, imaginez, déjà, ils devaient être très troublés, mais ils avaient un poste avancé sur un éperon rocheux. Deux hommes suffisent à tuer toute cette garnison. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, Dieu rajoute à cela par un tremblement de terre. Et là, ils réalisent qu'il est en train de se passer quelque chose qui dépasse leur entendement. Cela devint une terreur divine. Dieu s'y met aussi. Lorsque Dieu nous demande d'accomplir son plan, non seulement Dieu va nous aider à combattre pour lui, mais en plus, il intervient directement dans le monde au travers des circonstances. C'est étonnant quand on voit ce que Dieu fait parfois lorsque un homme ou une femme se lève dans un endroit pour entreprendre de grands projets. Et c'est de voir à quel point Dieu, au travers des circonstances, va intervenir pour amplifier l'action de cette personne. Des fois, un avion arrive en retard. Des fois, un véhicule tombe en panne et ça va avoir des conséquences étonnantes qui va faire que certaines personnes, toutes seules, ont l'impression que leur projet va réussir à voir le jour. Dieu semble multiplier le résultat de ce que nous faisons. Et ce n'est pas tout. L'audacieuse victoire de Jonathan et de son écuyer va redonner courage également à ceux qui avaient le désir de se battre. Donc là, les soldats d'Israël qui, eux, voulaient se battre, mais qui pourtant n'avaient pas encore osé le faire. Ils étaient restés de l'autre côté de la montagne. Les sentinelles de Saül qui se trouvaient à Gibéa de Benjamin virent que c'était la débandade générale parmi la foule des Philistins. Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Ça y est, ils vont se battre eux aussi. Ces soldats étaient là, ils n'avaient pas osé passer à l'action, mais après la victoire de Jonathan, eh bien, ils sont encouragés eux aussi à se battre. Et c'est souvent parce que quelques personnes, un jour, ont eu l'audace de se lancer dans un projet un peu fou, que derrière cette personne, de nombreux autres se mettent à le suivre. Pensons par exemple, on a parlé de ça lors du parcours Alpha, la mission Portes Ouvertes avec Frère André. Donc mission Portes Ouvertes est une mission qui apporte de l'aide aux chrétiens persécutés. Et maintenant, c'est une mission mondiale. Il y a des milliers de missionnaires qui travaillent pour eux et chaque année, des tonnes et des tonnes de Bibles sont rentrées clandestinement dans des pays où elles sont interdites. Des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi sont cachés. On pourvoit leurs besoins, on éduque les enfants, etc. Eh bien, ce projet a démarré par quelque chose d'assez fou. Hein. C'est un homme tout seul qui a décidé de cacher des Bibles dans le double fond du coffre de sa voiture et de passer tout seul un poste de douane à l'époque où l'URSS interdisait que des Bibles pénètrent dans le pays. Il a fait ça tout seul et maintes fois, il a pu faire ça parce que justement Dieu fermait les yeux aux douaniers, etc. Et maintenant, parce qu'il a eu l'audace de faire ça, eh bien, des milliers de personnes le suivent. Lorsque le peuple de Dieu ose s'engager dans le combat, Dieu lui-même les devance et sème également le trouble parmi ses ennemis. Alors les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres dans un très grand trouble. Voilà, lorsque Dieu accorde des victoires à son peuple, ses ennemis se détruisent mutuellement. Alors, ça peut nous sembler étrange, hein, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Parce que, puisqu'il refuse d'admettre que Dieu est en train de combattre contre eux, il est impossible pour eux d'admettre que des gens faibles puissent réussir à remporter des victoires. Comme Dieu n'intervient pas, il pense que c'est simplement par les gens arrivent tout seuls, ces chrétiens arrivent tout seuls. Et comme ils sont trop faibles pour avoir la victoire, il faut forcément qu'ils cherchent à le justifier d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils s'accusent mutuellement, mais c'est ta faute si jamais ceci a réussi à se passer. Si ils ont réussi dans telle et telle mission ou telle œuvre, c'est parce que on n'a pas fait telle et telle chose. Et ils se détruisent mutuellement. Les victoires du peuple de Dieu, associées à l'autodestruction de ses ennemis, vont alors ouvrir les yeux encore d'une autre catégorie de personnes, jusque-là on n'en avait pas parlé, qui s'étaient associées au mal et à l'injustice. Il y avait des Hébreux parmi les Philistins, comme c'était le cas depuis longtemps. Ils étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient dispersés. Ils se joignirent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. Certains Hébreux, c'est-à-dire certaines personnes qui appartiennent au peuple de Dieu, avaient fait le choix de combattre du côté des Philistins contre leur propre peuple. C'était des traîtres, hein, on peut dire ça. Et ils s'étaient probablement rangés du côté des Philistins parce qu'à cette époque-là, c'était eux les plus forts. Eh bien, en voyant leurs frères non seulement oser défier les Philistins, mais aussi les vaincre, eh bien, ils vont décider de changer de camp et de les rejoindre, et maintenant de combattre du bon côté. Et ce n'est pas tout. Tout cela avait également donné du courage à ceux qui jusqu'ici avaient cédé à la peur. Tous les hommes d'Israël qui étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins prenaient la fuite et se mirent eux aussi à les poursuivre dans la bataille. Voilà, en voyant maintenant qu'une grande partie du peuple de Dieu est engagée dans le combat, et que ses ennemis fuient et tombent devant eux, eh bien, même ceux qui jusqu'à là n'avaient pas osé dépasser leur peur, ils avaient peur comme les autres, mais eux simplement, à cause de leur peur, ils se cachaient, eh bien maintenant, ils décident de surmonter cette peur, alors c'est bien sûr, c'est plus facile, et maintenant, ils ont enfin le courage d'aller se battre. Et au bout du compte, c'est l'ensemble du peuple Dieu, le peuple de Dieu qui est délivré de ses ennemis. Et le texte précise, bien sûr, non pas grâce à ses propres forces, mais parce que l'Éternel délivra Israël ce jour-là. Des fois, nous aimerions que Dieu fasse de grandes choses et qu'il les fasse sans nous. Alors bien sûr, hein, Dieu peut faire cela. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais le texte que nous venons de voir nous montre que souvent, Dieu utilise son peuple pour faire de grandes choses. Mais pour que cela soit possible, il faut deux choses. Déjà, il faut discerner quels sont les combats que Dieu veut que nous menions. Et deuxièmement, il va falloir de l'audace. De l'audace de nous lancer dans ce combat en ayant confiance que si jamais Dieu nous dit « vas-y », eh bien Dieu sera avec nous, que Dieu combattra à nos côtés pour nous rendre victorieux. Sans audace, pas de victoire. Mais par contre, Dieu sourit aux audacieux. Ces textes nous montrent également que, grâce à l'audace d'une seule personne, Dieu peut encourager tout son peuple à aller de l'avant. Parce que quand une personne audacieuse se lance dans un projet pour Dieu, elle va être suivie par d'autres personnes qui avaient, elles aussi, le désir de faire quelque chose pour Dieu, mais peut-être qui jusqu'à présent ne savaient pas ni quoi ni comment faire, et qui vont se dire « mais voilà, ça y est, moi je vais apporter mon aide à cette personne dans ce projet ». Ce groupe qui est engagé dans un beau et juste combat va également ouvrir les yeux à ceux qui jusqu'à là ne faisaient rien, et qui vont se dire « mais voilà aussi ce que Dieu veut que je fasse, voilà, je vais également me joindre à ce combat des hommes et de ces femmes de Dieu ». Et toutes ces personnes vont également donner du courage à ceux qui pensaient qu'ils n'avaient rien à faire, que la situation était si désespérée, qu'il était inutile de se battre, qu'il valait mieux se cacher, qu'il valait mieux continuer à avoir une vie tranquille et pépère. Parce qu'une personne audacieuse a eu un jour le courage de faire quelque chose pour Dieu, elle a été suivie par des dizaines, par des centaines, peut-être même par des milliers d'autres personnes. Et Dieu va bénir l'action de ces hommes et de ces femmes qui, ensemble, sont prêts à travailler, à prendre des risques à suer pour l'avancement de son royaume. C'est bien d'avoir dans notre cœur des désirs, et je pense que nous avons tous dans notre cœur des désirs que les choses aillent mieux dans ce monde, des désirs que de faire des grandes choses pour Dieu. Et moi, j'aimerais vous poser cette question. Quels sont les désirs que Dieu a mis dans votre cœur? Est-ce que vous avez dans votre cœur des désirs de lutter contre l'injustice? Est-ce que vous avez dans votre cœur ce désir d'aider d'autres personnes à connaître la victoire sur le péché? Peut-être que votre désir, c'est de lutter contre la pauvreté, ou peut-être l'annonce de l'Évangile, mieux vous former pour mieux servir, peut-être un désir que des personnes qui ont besoin d'un accompagnement spirituel puissent trouver justement quelqu'un pour les accompagner. Eh bien, c'est bien d'avoir des désirs, des projets, mais notre problème, c'est souvent que nous manquons d'audace pour nous lancer les premiers dans ce projet. Des fois, on se fait des sortes de politesse, hein. Vous savez, on est « Ah, ce serait tellement bien s'il y avait telle et telle chose qui était faite. » Et puis on dit « Mais ce serait bien si un tel se lançait là-dedans. » Des fois, « Mais ce serait bien si l'Église se lançait là-dedans. » On oublie que l'Église, c'est quoi? C'est pas une chose. Une Église, c'est un ensemble de personnes. Ou des fois, on dit « Mais bon, allez, bah, si quelqu'un le fait, je le suivrai. » C'est bien de faire ça, mais si personne ne se lance, eh bien, ces désirs vont rester dans nos cœurs et rien ne va voir le jour. Dieu a-t-il mis un projet particulier dans votre cœur? Pensez-vous que Dieu vous demande de faire quelque chose de précis pour lui? Des fois, on a une conviction qu'on est sensible à telle chose, que c'est pour ça que Dieu nous a préparés. Si vous n'êtes pas sûr de cela, demandez à Dieu que d'une manière ou d'une autre, il vous montre si c'est bien dans cette direction que vous devez aller. Et si jamais vous êtes certain que ce projet vient de Dieu, eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? Est-ce que vous attendez que quelqu'un d'autre fasse le premier pas? Que Dieu vous donne plus de moyens? Moi, je me rends compte, on a cette tendance à attendre d'avoir plus de moyens. Parce que bien, quand on a un projet à cœur, on voudrait que ce soit un grand projet, que les choses aillent très vite et soient très efficaces. Mais peut-être que Dieu nous demande simplement de commencer à faire maintenant avec les moyens que Dieu nous a accordés maintenant. Sans attendre d'être plusieurs, sans attendre d'avoir plus de telle ou telle chose, parce que peut-être que Dieu veut compter là-dessus pour pouvoir encourager et motiver d'autres personnes. Dieu sourit aux audacieux. Ne manquons pas d'audace dans notre vie avec Dieu. Amen.